cachet que ça produit.
Impatience. Joanne Ducé.
Et avec Bastien Confineau pour le dossier d'impatience du jour. Alors Bastien, on a vu tout à l'heure dans votre reportage que les producteurs d'électricité nucléaire défendent forcément leur entreprise. Il y a différentes techniques de communication, mais on peut pas non plus dire n'importe quoi. Il y a quand même des contrôles indépendants.
Oui, il y a effectivement des contrôles indépendants, mais la plupart sont quand même liés à l'État. Alors, indépendant ou pas, bon, ça c'est une question d'opinion. Quand même, pour en savoir un petit peu plus, j'ai été à la rencontre de Pascal Peduzzi. Il est coordinateur scientifique au programme des Nations Unies pour l'environnement. Et je tiens juste à préciser qu'il s'exprime ici en son nom propre et c'est pas nécessairement l'opinion de l'ONU. Mais pour commencer, je lui ai demandé si, selon lui, on pouvait travailler dans le nucléaire et être 100% transparent.
J'ai pas l'impression. Je ne travaille pas dans le nucléaire, donc ma connaissance n'est pas de l'intérieur, mais plutôt de l'extérieur. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un certain nombre de problèmes entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Donc le nucléaire, il a quand même démarré avant tout pour approvisionner les gouvernements en matériaux pour fabriquer des bombes atomiques. Donc il y a toujours eu ce côté secret d'État qui venait sur le nucléaire. Ce qui fait que des agences comme l'Agence internationale sur l'énergie atomique, l'AIEA, pour pouvoir travailler avec les gouvernements, pour pouvoir visiter les centrales et les sites, qu'ils soient civils ou qu'ils soient potentiellement enrichissement à but militaire, doit se prémunir en fait de clauses qui stipulent noir sur blanc comme quoi ils ne vont pas être tout le temps en mesure de donner toute l'information nécessaire. Vous pouvez d'ailleurs trouver ce document sur le site de l'AIEA qui spécifie que dans certains cas, ben, malheureusement, on ne sera pas en mesure de fournir les informations sur certains sujets, pour autant que ça puisse poser un problème de confidentialité avec leurs partenaires. Alors ça, c'est évidemment un problème. Je comprends le point de vue de l'AIEA parce qu'il faut bien qu'ils puissent travailler avec leurs partenaires et que s'ils n'avaient pas ces clauses-là, probablement qu'ils n'auraient pas accès à un certain nombre de sites. Mais du point de vue de l'Organisation mondiale de la santé, du point de vue de l'ONU, du point de vue des médias et du public, ce n'est pas acceptable qu'un certain nombre d'informations ne soient pas disponibles pour le public sur des effets qui finalement atteignent la santé de tout un chacun.
En même temps, on peut se dire qu'il y a peut-être des choses positives à cacher un petit peu ce qui se passe au niveau du nucléaire.
Probablement d'éviter la panique après un accident. On peut imaginer que s'il n'y a absolument aucune solution, prenons le cas après Tchernobyl, pour le gouvernement soviétique, il fallait intervenir rapidement et probablement sacrifier un certain nombre d'ouvriers pour le bénéfice de la sauvegarde dans plus grand nombre. Et dans ce cadre-là, il y a eu évidemment des rejets extrêmement nocifs dans l'environnement, aux alentours de la centrale, mais aussi beaucoup plus loin. Et pour une population qui réside dans un certain rayon de Tchernobyl, il y avait un certain nombre de radioactivités qui plaçaient le gouvernement dans une situation impossible. Il ne pouvait pas évacuer des millions de personnes. Et donc, quand il n'y a pas de solution, il ne sert à rien de donner aux populations de leur dire qu'il y a un problème, puisqu'il n'y a pas de solution. Donc ça, je ne dis pas que c'est bien, hein. Au contraire, je pense que tout le monde devrait avoir accès à l'information et prendre des décisions personnelles. Mais du point de vue d'un gouvernement, s'il n'a pas de solution à un problème, que faire?
Ça veut dire que sur le Japon, il pourrait se passer la même chose?
Bon, l'information que nous obtenons à travers le gouvernement du Japon ou à travers l'AIEA ne sont pas satisfaisantes. On voit très bien qu'il y a des essais qui sont faits pour remédier à ces fuites qui vont dans la mer, qui vont dans le sol. On nous dit tout le temps qu'il n'y a pas de problème pour la santé. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Seules des mesures concrètes de la radiation en becquerel qui soient mesurées avec des mesures physiques seraient à même de remplir cette information. Or, ce n'est pas des informations que nous avons systématiquement. Et puis, on ne sait pas depuis combien de temps il y a cette fuite dans la mer. Peut-être qu'ils cachent une partie de l'information pour éviter la panique, mais peut-être aussi qu'ils n'ont pas cette information. Donc, avoir l'information n'est pas toujours évident dans le cas d'un accident nucléaire, parce que vous ne pouvez pas aller directement sur place.
Et il n'y a pas des associations indépendantes, vraiment indépendantes, qui peuvent aller sur place, faire des mesures et fournir une information de qualité?
Bon, ils vont être confrontés à la même dangerosité et au même péril que les personnes que vous envoyez sur place. Ce n'est pas parce qu'ils sont indépendants qu'ils vont être protégés des irradiations du nucléaire. Il existe des mesures indépendantes, Greenpeace fait des mesures, d'autres ONG font des mesures. Maintenant, l'autorisation d'aller sur un site après une catastrophe nucléaire, évidemment, est limitée. Et on comprend bien pourquoi.
Élodie Dufour, chargée de communication à la centrale nucléaire du Bugey.
Donc la centrale fait 2 000 prélèvements et 12 000 analyses par an.
On le fait par notre laboratoire, donc qui est agréé, mais il est également fait en parallèle par un laboratoire indépendant. C'est pas dans notre intérêt, j'ai envie de dire, d'interdire notre accès à des personnes indépendantes.
N'importe qui, à la limite, moi j'arrive et puis je vous dis, bah, écoutez, j'ai des détecteurs, des choses, j'aimerais aller mesurer quelque chose. Vous me dites, oui, vous pouvez.
Après, on rentre pas comme ça sur la centrale, je vous l'expliquais tout
à
l'heure.
Mais je veux dire, en théorie...
Mais en théorie, j'ai envie de vous répondre que non, on n'a aucun intérêt à masquer les chiffres, à les changer. On les rend publics, ces chiffres. Donc voilà, à nous d'être rigoureux sur les chiffres qu'on peut donner après.
On retrouve Pascal Peduzzi, coordinateur scientifique au programme des Nations Unies pour l'environnement.
On ne peut pas garantir une sécurité avec des objets aussi dangereux que cela sur du très long terme. Et une des choses qui va beaucoup nous occuper ces prochaines années, c'est le démantèlement des réacteurs. On a actuellement plus de 140 réacteurs qui ont plus de 35 ans et donc qui vont être démantelés ces prochaines années. Or, les démantèlements de centrales sont toujours très délicats. Les centrales sont très souvent localisées le long des rivières, ce qui rend leur déconstruction extrêmement délicate. Vous ne pouvez pas vous permettre aucun incident parce que tout élément radioactif partirait dans l'aquifère, dans la nappe phréatique et dans la rivière. Au Brésil, ils ont fait un démantèlement d'une centrale de recherche qui a généré un certain nombre d'incidents avec des conséquences pour la santé des travailleurs parce qu'ils n'avaient plus l'expérience. Les ingénieurs qui avaient fabriqué cette centrale, et c'est valable dans beaucoup de pays du monde, les ingénieurs sont maintenant à la retraite ou trop âgés ou sont décédés. Donc le savoir-faire de la construction de la centrale se perd.
On forme quand même des jeunes aujourd'hui au nucléaire.
Eh bien, de moins en moins, c'est-à-dire que je discutais encore dernièrement avec une professeure, rectrice d'université en Afrique du Sud, et qui me disait qu'ils avaient énormément de problèmes à former des ingénieurs nucléaires parce que ça n'intéressait plus les jeunes. C'est pas vu, perçu comme quelque chose d'avenir, surtout si on parle maintenant de fermer le nucléaire. Il y a peu de jeunes qui vont s'orienter vers cette carrière-là. Or, ça donne un déficit des compétences dans ce domaine. Et elle me disait, on était tout contents l'année passée parce qu'on a formé 2 ingénieurs nucléaires pour toute l'Afrique du Sud. Et ils ont quand même un réacteur qu'ils vont devoir démanteler. Donc, ils seront totalement dépendants de travailleurs étrangers avec un savoir-faire qu'ils n'ont plus à l'intérieur du pays. Donc, on se retrouve maintenant avec un bagage de vieux réacteurs qu'il va falloir mettre à l'arrêt et avec une main-d'œuvre qui est de moins en moins qualifiée, ou en tout cas, une main-d'œuvre qualifiée qui est de plus en plus rare.
Merci à Pascal Peduzzi, les coordinateurs scientifiques au programme des Nations Unies pour l'environnement. Il s'exprimait en son nom. Merci également à Élodie Dufour, chargée de communication à la centrale nucléaire du Bugey. C'est juste à côté de Lyon.
Impatience. Joanne Ducey.